Tout le monde respecte son temps. Parfait, j'ai absolument rien à faire. Donc, je vais juste présenter les deux orateurs suivants. Donc, le professeur Vincent Laprevotte, qui est PUPH au CPN de l'Axou, et le docteur Christina Andréou, qui est praticien hospitalier en psychiatrie à Bâle, à Basel, en Suisse. Et on va commencer, je crois, par un duo. Et c'est Christina qui va commencer à ouvrir le bal. Merci.
Morning. Thank you for the invitation. I'm going to have to give this talk in English, I'm afraid, because my French is terrible. I understand a bit of French, but I can't really speak it. So I'm very sorry. I'm a consultant psychiatrist, head of the Basel Early Treatment Service, relatively new. Early intervention service for psychosis in adults and adolescents. And Professor Laprevotte was kind enough to share this talk with me. So I'm going to give you first a brief overview of early intervention in psychosis, the general aspects of it, and then Vincent is going to present to you the specifics of the implementation of such a service in Nancy, France. This is the outline of my talk, a bit of background, a bit of why and how we need early intervention, how to do it, and the advantages of specialized early intervention centers. Now, most of you will know that psychotic disorders are generally chronic severe disorders that affect several aspects of patients' lives and their families' lives, and that antipsychotics do have an effect on symptoms, sometimes a very good effect on symptoms, but still do not do much in way of improving functional outcomes, which means that psychotic disorders are associated with high rates of disability and high costs, which are comparable, for example, to... sorry, I don't have a pointer. Comparable, for example, to costs incurred by mood disorders, which are much, much more prevalent. So psychotic disorders are a major public health issue, and therefore research on psychotic disorders has had a major focus in trying to find ways of improving outcomes. And in this context, two observations were seminal in paving the way towards early intervention. One was the observation that duration of untreated illness, which means the time between the first onset of symptoms and help-seeking or receiving treatment, has a huge impact on outcomes. And symptoms, on social outcomes and cognitive outcomes, and on safety outcomes such as self-harm and violence. The second observation was that in the majority of patients with a first psychotic episode, you can see retrospectively that there was a prodromal phase, which lasts an average about 5 years, so several years in advance of the psychotic episode, you have some early signs, be it attenuated symptoms or functional outcome or unspecific symptoms. So take these two observations together and you have the idea that you may be able to improve outcomes in psychosis or even prevent psychotic episodes if you could intervene early on before the onset of the illness. In order to do that, you obviously need a definition of the high-risk status. You have to be able to have a reliable criteria to define, to determine which patient is at risk of developing psychosis. And such criteria exist since the 90s. There's two major sets of criteria. One are the basic symptom criteria. These represent subjective disturbances not necessarily noticeable by others, but still disturbing for the patient, causing distress. And they are subtle disturbances in thinking or language or perception. For example, perceiving shapes or colors differently, or not being able anymore to complete two simple tasks at the same time, like talking on the phone and writing something down. Ultra high risk criteria are a second set of criteria, and they are thought to be closer to the actual onset of psychosis. They are usually typical psychotic symptoms, such as delusional ideas, such as hallucinations, which, however, are either attenuated in the sense that they're not full-blown, for example, hearing voices but knowing that the voices aren't real, or not having voices intervene with everyday life so much, or full-blown psychotic symptoms that are self-contained, that remit spontaneously within a couple of days without the need for treatment. Or another category is genetic risk accompanied by functional deterioration. Now, help-seeking patients that fulfill such criteria for a high-risk state have a probability to develop a psychotic disorder in the next years of about 35-36%. Most transitions occur within 2 or 3 years of the first diagnosis, and most transitions end in an episode of a schizophrenia spectrum disorder. Now, when these criteria were developed and when the first early intervention centers were set up, there was some resistance and a lot of debate about ethical issues. First, there was a question of benefit. Do you really need to treat if the majority of these patients is not going to develop a psychotic disorder? There were also some concerns about possible harms of early intervention. There was the issue of stigmatization by attaching young patients very early on to psychiatric services. And there was the issue that such a diagnosis might lead to unnecessary treatment with antipsychotics. Now, experience has shown that it's not as difficult as that, and that there are benefits. First of all, yes, rates of psychotic transition are only about a third, but again, this is about 30 times higher than the probability of psychosis in the general population. So this is an extremely increased risk. The other thing is that even patients that do not develop a psychotic episode are still impaired. They have, in their majority, about two-thirds of them, do have long-term other psychiatric diagnoses, such as depression, anxiety, or substance abuse. Some of them experience recurrent or persisting symptoms. And these patients have, an average, lower functioning levels than completely healthy control subjects. So there is a benefit by trying to treat patients at these early stages. As far as these concerns about harm are concerned, obviously there's an issue of stigmatization, but stigmatization occurs long before help seeking. It's everywhere in everyday life. It's on the internet. It's on television. You can't prevent it in this sense. And actually, stigmatization is one major factor delaying treatment. There have been studies conducted in patients treated in early intervention centers, and these patients seem to be aware of labels attached to mental illnesses, but they do not seem to attach the labels on themselves or the psychiatric service. They seem to attach it on their symptoms, so they're grateful to be receiving treatment and information about the symptoms and being able to do something about them. And regarding the medication issue, yes, well, it's actually far more likely for patients to receive inappropriate treatment outside of early intervention services. Substantial proportion of patients referred to us is already medicated with antipsychotics, contrary to guidelines, either because the doctors aren't aware of guidelines or because they cannot acknowledge the high-risk state for what it is and mistake it for psychosis, or even because of stigmatization, because the doctor doesn't want to take the risk of not treating. So all in all, prejudice and ignorance seem to cause more harm than early intervention in itself. And I believe that information actually provides patients with a way of dealing with the symptoms and increases their autonomy. Now, let's agree that we think the treatment in this early stage is a good thing. How would one go about it? It's important to remember here that our goal is not just preventing psychotic transitions. Our goal is to treat comorbidities as well and improve functional outcomes. And in order to achieve those goals, you need a multidisciplinary team, you need multimodal treatment. Very usually, ideally, there are several elements of treatment that you can combine individually according to the patient's needs. For example, symptom management, crisis management, family work, psychosocial work, cognitive training. And these elements are the same for patients with high risk and patients with a first psychotic episode. The only difference is medication. There, the guidelines clearly diverge. In patients with a first psychotic episode, the guideline is first-line treatment is medication, and maintenance treatment is for 2 years, approximately 2 years is recommended. In patients with high risk, it has been shown consistently that other means of treatment, other measures like psychosocial measures or psychotherapy, are as effective as antipsychotics in improving outcomes. So guidelines recommend, they are as effective also at preventing transition, not just in improving outcomes and symptoms. So guidelines recommend the least restrictive approach, which means medications are only reserved for severe, progressive, or refractory symptoms. And maintenance treatment is not indicated. Treatment with antipsychotics is supposed to be short-term, just to control symptoms in order for patients to be able to benefit from other treatments. Could you do that in a general psychiatric service? Yes, you could. You could do that everywhere. However, there seem to be specific advantages associated with specialized early intervention services. And there are several advantages regarding transition rates, admissions to the hospital, compulsory admission, the reduction of the duration of untreated illness, and such services seem to be cost-effective compared to standard care. This is why some guidelines, including the NICE guideline that I quote here, are explicitly recommend that patients, young patients, when there's a suspicion of a psychotic episode or high-risk state, should be referred to a specialized center, like the one that Vincent is going to present to you. For my part, thank you for your attention, and I'd like to invite you to check out a website which provides information for patients and their families. It's unfortunately in German and English so far, but we plan translation in French as well. Thank you.
Merci beaucoup à Christina Andreou d'avoir posé les bases de cette intervention précoce et puis aussi d'avoir montré vraiment les standards avec lesquels on peut travailler en intervention précoce. Je vais maintenant vous parler de la manière dont on a essayé d'adapter ces bases-là et ces standards-là au système français à notre échelle à Nancy et donc avec l'aide de la clinique psychiatrique universitaire de Bâle, notamment le professeur Anita Richer-Rössler et Christina Andreou. Un petit mot d'introduction avant, simplement pour resituer que, évidemment, ce type de service-là, eh bien, ils ont beaucoup été développés par un certain nombre de pionniers. Les premières équipes, très probablement, qui ont développé cela étaient les équipes australiennes, notamment sous l'influence de Patrick McGorry. Sur le continent européen, eh bien, c'est en Allemagne et en Suisse que se sont montées les premières équipes d'intervention précoce spécifiquement dédiées, telles que Christina Andreou vous les a présentées. Ainsi, par exemple, en Suisse ou en Allemagne, il y a certaines équipes qui ont maintenant quasiment 20 ans de recul sur ce type d'intervention. Vous voyez au passage que bon, il n'y a pas la France sur cette carte-là. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu la France, en fait, sur les cartes du monde comme ça de l'intervention précoce. Je crois qu'on peut dire maintenant vraiment qu'il en va différemment. Il y a plusieurs initiatives en France qui sont clairement établies avec des équipes dédiées qui pratiquent l'intervention précoce. Et puis il y a encore beaucoup de projets, on en reparlera dans un instant, il y a encore beaucoup de projets qui sont des projets de services d'intervention précoce. Donc on l'a bien compris, ce sont des services avant tout ambulatoires, parce que l'idée est d'être vraiment au plus proche de la vie du patient dans la cité. Donc ce sont avant tout des services ambulatoires. C'est pas pour recevoir les gens sur des lits d'hôpital. C'est vraiment très important. Mais de l'ambulatoire intensif et réactif. Et donc ça implique un certain nombre de modalités d'organisation qui seront forcément différentes. Quelques petits points sur les populations qui sont concernées par ce type de service. D'abord, si on a bien suivi l'intervention de Christina Andreou, eh bien, ce sont des populations qui ne sont pas couvertes par les soins psychiatriques ou qui n'ont pas encore eu accès ou qui ont eu un accès très limité. Bref, ils ont encore très peu mis les pieds dans le système. Donc, première chose, et je crois vraiment il faut en tenir compte dans la manière dont on organise les conditions d'accueil de ces populations. Deuxième point, ce sont des jeunes. Parce que globalement, on vise là la tranche des 15-25 ans, 16-25 ans, voilà, ça dépend comment on se situe, mais globalement, ce sont des populations jeunes. Et il y a là aussi très certainement une réponse spécifique à avoir parce que les populations de ces âges-là, eh bien, elles ont des besoins spécifiques, elles ont aussi des exigences spécifiques. On ne répond pas à un jeune de la même manière qu'à quelqu'un qui est plus avancé dans la vie. Et puis surtout, ce sont aussi des populations qui ont besoin de qu'on réagisse assez vite. Autre point, voici une salle d'attente. Alors jusqu'ici, tout va bien, elle est vide. Voilà. Remplissez cette salle d'attente d'une population, par exemple, mixée en psychiatrie. Eh bien, est-ce que vous allez facilement y faire rentrer un jeune de 16 ans qui se pose quelques questions sur des symptômes ou pour lequel sa famille s'inquiète et veut l'emmener voir un psy ? La question se pose quand même. Hein. Je précise que ça n'est pas une question de stigmatisation, ce que je dis, et plus précisément pas de stigmatisation vis-à-vis de la santé mentale. Par exemple, en ayant discuté avec nos collègues qui font de la diabétologie, eh bien, ils ont un peu le même type de problème, puisqu'ils ont affaire à des populations jeunes qui rentrent dans la maladie et à qui il faut transmettre un certain nombre d'informations, de réflexes, pour que le moins possible, ensuite, ils aient de problèmes. Et puis, ils ont affaire aussi à des populations qui sont beaucoup, beaucoup plus avancées et qui, sont celles qui sont le plus problématiques et qui vont avoir besoin d'aller dans des consultations spécialisées, pas seulement d'être suivies par leur médecin généraliste. Eh bien, je crois qu'en psychiatrie, on a parfois un petit peu les mêmes enjeux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, peut-être, il faut penser à mettre au point des services qui soient spécifiques pour l'accueil des jeunes. Les Australiens, ils ont appelé ça « youth friendly », et je crois vraiment que c'est un point qui est très important. Enfin, dernier point, et on l'a déjà pas mal abordé, eh bien, en fait, c'est une démarche de prévention pour un certain nombre de jeunes. Et donc, on ne va pas agir de la même manière. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à Nancy, nous avons décidé de ne pas placer le centre d'intervention précoce directement dans les murs de l'hôpital psychiatrique. Évidemment, c'est porté par notre établissement, le centre psychothérapique de Nancy, mais on n'a pas mis dans les murs précisément parce que parfois, quand même, la porte, on essaie de tout faire pour que ce ne soit pas le cas, mais il faut bien le reconnaître, parfois la porte de nos hôpitaux psychiatriques est un petit peu lourde à pousser, et notamment pour des jeunes populations. Et nous l'avons donc installé dans une maison des adolescents. Je vais vous raconter comment on a fait, comment on a pris cette décision. Au moment d'implanter le centre à Nancy, on a fait venir donc l'équipe de la clinique psychiatrique universitaire de Bâle, et puis on leur a fait visiter tout ce qu'on avait globalement sur Nancy, y compris ce qui était en dehors de notre établissement, puisqu'en l'occurrence, la maison des adolescents de Nancy est portée par un autre établissement. Donc, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait, globalement. Et on avait déjà en tête, évidemment, la maison des adolescents, et immédiatement, ils nous ont dit, non mais, cherchez pas, oubliez tout le reste. Hein. On avait montré nos très beaux CMP, ils sont très beaux, ils sont tout neufs, hein. Ils sont vraiment magnifiques. On avait montré des tas d'endroits différents, ils nous ont dit, laissez tomber tout le reste, ne vous posez pas de questions, mettez-vous dans une maison des adolescents. Un endroit dont l'accès est facile pour des jeunes, une porte facile à pousser, un endroit où on peut venir pour des tas d'autres raisons que des raisons psychiatriques. En tout cas, quand les maisons des adolescents suivent le cahier des charges qui leur a été donné. C'est-à-dire qu'on peut y aller pour voir un médecin généraliste, pour voir une infirmière et discuter d'un certain nombre de problèmes, par exemple de contraception. On peut aussi, à Nancy par exemple, y aller pour des questions d'addiction. Il y a, dans la maison des adolescents de Nancy, une consultation jeune consommateur, ce qui donc est très intéressant pour aborder aussi toutes ces questions-là. Eh bien, donc, ce sont des lieux qui accueillent un certain nombre de ressources multiples, très intéressantes, pour la santé des jeunes, et puis qui dispose d'un réseau déjà établi pour s'occuper de santé des jeunes. Alors, nous sommes une équipe, clairement, de psychiatrie d'adultes. On y est allé en tant que psychiatre d'adultes, et il y avait déjà des interventions qui étaient plus spécifiques de l'enfant et de l'adolescent sur le lieu. Ça n'est pas contradictoire, c'est complémentaire, c'est intéressant. Certes, de s'occuper du problème de l'ici et maintenant chez les adolescents, c'est très important, c'est dans les missions des maisons des ados, mais on peut aussi imaginer que dans les maisons des ados, on fasse de la prévention des maladies psychiatriques d'adultes, et donc aussi, en tant que psychiatre pour adultes, eh bien, on puisse y avoir une place, et c'est très facilement que la maison des ados de Meurthe-et-Moselle nous a accueillis sur ce point. Alors, je vous présente ici notre équipe, vous avez l'équipe en haut, alors vous voyez au passage que c'est une petite équipe, hein, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des psychiatres, il y a un infirmier, case manager, je vais y revenir, un neuropsychologue, une psychologue, et puis une secrétaire, une cadre de santé pour évidemment assurer le fonctionnement de tout ça. On a pu mettre en place ce clip dans la maison des ados, notamment grâce à un certain nombre d'interventions déterminantes, notre chef de pôle, professeur Raymond Chan, et puis aussi le directeur de notre établissement, monsieur Gilles Barou, qui a beaucoup soutenu ce principe. Un point important, c'est de pouvoir être réactif et intensif, et ça dès le début. Donc évidemment, il s'agit de faire autre chose que de proposer des rendez-vous à un mois, deux mois, trois mois, mais de pouvoir proposer un rendez-vous en une semaine, nous, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, nous nous y tenons. de pouvoir proposer un rendez-vous en une semaine, un premier contact en une semaine auprès de ces jeunes-là, parce que vous pouvez être sûr que si on ne le donne pas suffisamment rapidement, ce rendez-vous, ils vont zapper, ils vont passer à autre chose, ou ils vont se laisser embarquer par leurs symptômes. Le moment où ils sont là, c'est le moment où il faut intervenir. On n'aura peut-être pas d'autres fenêtres pour intervenir. Et donc, au début de la prise en charge, au moins des contacts hebdomadaires avec les différents professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire fonctionner un peu différemment d'un fonctionnement purement centré sur l'intervention du médecin psychiatre. On n'a pas assez de ressources en médecin psychiatre, clairement, pour faire ça. Il faut faire différemment, et c'est d'ailleurs le modèle qui est développé dans la plupart de ces centres-là. Et il faut intervenir plutôt sur un modèle de case management intensif, avec un case manager, un intervenant pivot, qui est là tout au long du parcours de soins du patient. Alors, ça dépend des services. Dans un certain nombre de centres, cet intervenant pivot, il peut être un infirmier, un psychologue, un ergothérapeute, par exemple, au Canada, peut-être que Frédéric Esbart nous en parlera tout à l'heure, un travailleur social, voilà. Mais un intervenant qui est là, réactif, qui peut être contacté facilement et qui peut répondre aux questions de l'ado. Ça veut dire qu'il a peu de monde en file active, lui, hein. Le psychiatre, lui, il a plein de monde. Donc, évidemment, chaque patient a quand même un psychiatre en référence. Mais le psychiatre, lui, il a plein de monde en référence. Donc, il ne les voit pas souvent, mais il les voit quand même. Le case manager, lui, est là souvent, fréquemment, et il répond facilement à la demande des patients. OK. Il y a une question qui se pose dans l'implantation de ce type de service et qui est une question, à mon avis, qui se posera à un moment en France. Il y a maintenant un certain nombre d'endroits dans le monde ou en Europe où il y a des réseaux de ce type de dispositif qui fonctionnent de la même manière. Il y a une vraie question de cohérence qui se pose. Il y a actuellement, eh bien, on va dire, une volonté nationale, en tout cas ce sont des paroles qui ont été exprimées par la ministre pour dire que l'intervention précoce dans les maladies psychiatriques était une priorité. Et il y a effectivement un certain nombre d'initiatives qui se multiplient. Et on voit que dans d'autres pays, eh bien, il y a des systèmes pour, en quelque sorte, maintenir la cohérence entre les différents centres et assurer une bonne répartition des centres sur les territoires qui ont été faits de manière à pouvoir assurer une équité à la population et un égal accès aux soins. Eh bien là, il y a une vraie question qui se pose en France. Un autre point que ça nous inspire, et je crois que c'est quelque chose qu'on rencontrait beaucoup d'équipes et que nous rencontrons aussi les équipes qui mettons cela en place en France, c'est qu'il y a quand même un changement culturel, parce qu'il s'agit de regarder la psychose, les psychoses et aussi la schizophrénie avec optimisme. Parce qu'on sait que plus on intervient tôt et plus on donne de chance aux patients, et si on intervient même encore plus tôt que le premier épisode, comme par exemple au stade de l'état mental à risque, eh bien on donne encore plus de chance aux patients. Il ne s'agit donc plus de considérer les psychoses comme un processus absolument inexorable contre lequel on ne peut rien. Là, il y a vraiment une source d'optimisme très importante et qui nous oblige aussi à observer ces problématiques de santé selon une optique différente et notamment une optique de stade avec des interventions spécifiquement dédiées aux différents stades de la maladie, que ce soit l'état à risque et le premier épisode, plus tard la schizophrénie, plus tard les formes résistantes avec des dispositifs différents pour ces différents stades de la maladie. C'est aussi une question de déstigmatisation et de pouvoir parler des psychoses différemment. Et il y a donc là aussi un vrai enjeu qui est comment pouvoir parler différemment des psychoses en France. Je vous montre un exemple ici sur la gauche de cette diapo de campagne de prévention et de promotion de la santé mentale qui ont eu lieu, alors précisément en Suisse, à Bâle, avec une campagne affichage 4 mètres par 3. Si vous avez ce type de symptômes, venez nous voir. Je caricature un peu, mais globalement, c'était ça. Alors, la campagne est très cash. Hein. Globalement, vous voyez, vous avez un banc, et puis ils ont mis une affiche qui reproduit l'environnement avec des caméras de surveillance autour du banc, ce qui mime en quelque sorte un peu le délire que peuvent avoir certains de nos patients. Et globalement, ce qui est marqué, c'est délire ou vérité. Est-ce que vous vous posez la question ? Si vous vous posez la question, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y avait comme ça aussi un certain nombre, il y a toujours de campagnes de tracts dans le tramway, des choses comme ça. Eh bien, vous avez donc ici, c'est peut-être un peu cash pour commencer en France, on n'irait peut-être pas là-dessus directement. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir, et aussi une vraie réflexion à avoir en termes de normalisation des psychoses comme un problème de santé commun. Souffrir de psychose, et notamment dans un premier épisode, c'est avoir un problème de santé qu'on peut résoudre, comme on peut résoudre d'autres problèmes de santé. Et ça, vraiment, ce discours de normalisation est très, très important. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Thank you very much for the model in Switzerland, which is definitely an asset, and we try to follow your model, definitely interesting. Je vais vous demander aux trois orateurs de revenir pour avoir un petit quart d'heure de discussion. On va un tout petit peu transformer le planning pour les choses qui sont totalement prioritaires, c'est-à-dire la qualité des petits fours qu'on va avoir à la pause café tout à l'heure. Donc, si vous voulez bien revenir, les orateurs, sur le podium, on va pouvoir enclencher la discussion. Et Vincent, je vais, s'il te plaît, te poser la première question, peut-être pour chauffer la salle. Vas-y, Pierre, tu peux y aller. En demandant finalement, ce modèle-là a une cohérence préventive, financière, totalement évidente. Et néanmoins, pour la France, se pose la difficulté de l'organisation de d'où tire-t-on les finances. Quand on a une enveloppe globale, tu as bien dit qu'on passait plutôt sur l'ambulatoire plutôt que l'hospitalier. Et on ne va pas économiser sur les lits d'hospitalisation puisque c'est une enveloppe globale. Comment vous avez fait à Nancy et qu'est-ce que tu en tires dans l'organisation ?
Alors, je dois vous avouer que j'ai fait exactement l'inverse de ce que vous... On a fait l'inverse de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que clairement, le service, pour l'instant, a été monté à moyens constants sur la base de financements qui étaient dédiés... À d'autres missions et qui clairement étaient des missions qu'on pouvait transformer vers l'ambulatoire. Donc, en fait, ça fait partie d'une politique de transformation, de virage ambulatoire, quoi, clairement, sur notre site. Mais effectivement, il y a une question de financement qui est absolument essentielle. Notre centre, par exemple, est trop petit hein, pour la région de Nancy. C'est très très clair. On couvre une zone de 300 000 habitants. Vous avez vu le nombre de personnes qui travaillent dans notre centre. Si on s'en réfère aux standards québécois qui ont émis des standards très très précis sur cette question, si on s'y réfère à leurs standards, on devrait avoir 24 personnes dans notre centre. 24. Là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une amorce de financement derrière pour obtenir ensuite des économies de santé, parce que Christina Andreou a bien montré que c'était économiquement efficace, mais il faut quand même une amorce de financement pour aller plus loin.
C'est en tout cas là une belle occasion de rappeler combien ces initiatives peuvent être d'origine médicale, organisées en partie sur des financements déjà existants, mais requièrent aussi un investissement politique et des systèmes de soins, puisque c'est ce qui se fait dans partout le reste en Europe. Hein, quand on va vers cet aspect préventif, eh bien, on investit des financements et c'est vraiment l'action conjointe médicale et la direction des hôpitaux qui peut permettre d'avoir une telle efficacité. Peut-être repartir alors sur les autres discussions de ce matin. Hein, beaucoup apprécié le fait d'insister comme toute première guidelines pour la société autour de la prévention de la maladie de la mère et de l'enfant sur le fait que la visite systématique à 4 mois peut amener à un vrai changement dans la détection. Ça paraît une telle truisme que c'est même compliqué de discuter. Alors après, comment le faire ? Par qui ? On a beaucoup en France cette idée que tout doit passer par le psychiatre. Ce n'est pas tellement le cas dans les autres pays d'Europe. Vous avez souligné que ça peut aussi être avec l'aide des psychologues. Comment vous voyez cette organisation de cette visite du quatrième mois qui soit faisable, pas trop coûteuse, c'est-à-dire avec quelque chose qui soit crédible dans son organisation ?
Alors, la question ne se pose pas tellement de cet entretien prénatal précoce en tant que tel. Il est financé. il est la première séance de la préparation à la naissance, à la parentalité. La difficulté, c'est que quand il a lieu, ce qui, dans la cohorte elfe, ne représente qu'à peu près 32-33% des femmes, un tiers, disons, les informations ont fort tendance à rester dans le cabinet de la sage-femme libérale, au mieux dans le dossier de la sage-femme hospitalière, auquel cas il y a une trace qui est peut-être plus facile à avoir. Et donc la difficulté qu'on rencontre, c'est le fonctionnement en réseau en périnatalité. La périnatalité a été marquée par des évolutions, un plan 74, un plan 94, un plan 2004, et on bute sur la notion de réseau, c'est-à-dire qu'il existe dans chaque région un réseau régional de périnatalité qui au début s'est beaucoup occupé des transferts in utero, mais pour l'instant dans ces réseaux régionaux, la question du soin psychique est vraiment très sous-évaluée. Tendanciellement, on peut dire qu'il n'y a pas de vrai repérage par les sages-femmes, même celles qui font l'entretien prénatal précoce, des troubles psychiques, qui sont un peu une mauvaise fée sur le berceau pour pas mal de collègues sages-femmes. Et donc, en Angleterre, la situation est assez différente, parce que le métier de psychologue est beaucoup moins développé. Il n'y a pas de psychologue dans les services de médecine et pas plus dans les services obstétriques. Et ce sont donc des sages-femmes qui se forment à la pathologie mentale psychiatrique du postpartum et qui font un peu les deux choses d'une certaine façon. On aurait besoin d'une meilleure formation des sages-femmes, d'un développement de l'entretien prénatal précoce et d'un rapprochement entre territoire par territoire, et c'est la question de la taille du bassin autour de chaque maternité, entre l'ensemble des acteurs.
Merci beaucoup. Peut-être avant de laisser la place à la salle, une toute petite dernière question sur Pierre autour de la réorganisation des finances européennes, qui sont les manières de financer les choses de manière réellement sérieuse, c'est-à-dire plutôt du registre du million d'euros. Le bilan qui a été fait récemment à la DG Santé est de dire qu'Horizon 2020 a été un échec après 1,5 milliard d'euros d'investissement. Et donc la prochaine vague d'investissement sera totalement transformée, et cette fois-ci avec l'idée de l'organiser autour d'une finalité. Non pas je veux mieux comprendre comment on... mais qu'est-ce que je suis capable de montrer en s'engageant vers un résultat? Qu'est-ce que tu verrais, toi, pour la prévention du suicide?
Je crois que ça, c'est essentiel. C'est quelque chose qui nous a certainement retardé dans les projets, la réorganisation, le déploiement d'innovations en psychiatrie. C'est notre difficulté à mettre en avant des objectifs qui puissent être chiffrés. Or, on peut en mettre un peu partout. C'est vrai que pour le suicide, là, c'est évident, c'est sur la suicidalité qu'il faut, sur le nombre de tentatives de suicide et la mortalité. En plus, là, ce sont des chiffres, même s'ils sont un peu macabres, parlent à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit du public, des associations, des professionnels, etc. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai terminé ma conclusion, c'était sur c'est tout à fait exemplaire pour les innovations en psychiatrie. On peut chiffrer, enfin, je sors du domaine du suicide, mais par exemple pour les premiers épisodes, c'est vrai qu'on peut avoir l'ambition de dire, ben là, l'état des lieux, c'est il faut à peu près 2 ans actuellement pour avoir accédé aux soins lorsqu'on a un trouble grave. On peut se fixer à 5 ans, il ne faudra pas plus de 48 heures. Enfin, on peut se fixer des objectifs comme ça. Et notre discipline, malheureusement, a peu l'habitude de faire des objectifs, alors que les MCO sont peut-être un peu plus à l'aise là-dedans. Et c'est tout à fait possible. Et on peut transformer des objectifs qui sont tout à fait importants avec un bénéfice net pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, des objectifs. Donc le suicide, c'est pour ça que l'intérêt de pouvoir commencer par ce dispositif de prévention autour du suicide va permettre après de diffuser aussi sur d'autres objectifs dans notre discipline.
En rappelant que la dépression est certes le premier, mais que l'alcool est le deuxième dans les critères de risque suicidaire. Je vous en prie, la parole est à la salle.
J'avais une curiosité, je voulais savoir, c'est plus autour de l'intervention précoce, je voulais savoir si vous avez connaissance comme une notion de père aidance dans ces environnements-là. Et je pose cette question, elle vient pas de nulle part. Je pose cette question parce que dans les milieux de santé communautaire, plus autour de la réduction des risques, on aurait pu mettre en parallèle avec la addictologie, ça commence à émerger depuis quelques années. Il y a des jeunes mineurs, en fait, avec l'autorisation parentale, etc., qui viennent rejoindre du coup les équipes d'intervention de terrain qui a été nommé père aidance est déjà bien en route dans les associations de santé communautaire dans ce sens. C'est pour ça que je demande s'il y a déjà des initiatives de cet ordre, dans le milieu peut-être de la psychiatrie ou de la santé mentale. Voilà.
Oui, bien sûr. Oui, la réponse est oui. Alors, à ma connaissance, pas dans notre pays, clairement en France, parce que c'est vraiment en émergence. Et puis, il faut trouver les personnes, hein, une fois qu'on a développé un dispositif local. Mais clairement, c'est très présent dans le modèle. Par exemple, au Canada, au Québec, eh bien, c'est quelque chose qui est très présent. Et les pères aidants peuvent être très présents dans ce type de dispositif. Donc oui, ça va avec. Ouais, tout à fait.
Autre question, oui, Daniel.
Oui, Daniel Sechter, Besançon, Franche-Comté. Merci à chacun des intervenants d'avoir souligné l'importance des stratégies de prévention, à la fois pour les interactions précoces mère-bébé, à la fois pour la prévention des conduites suicidaires, à la fois pour la prise en compte des interventions précoces lors de troubles psychotiques. Donc merci à chacun de vous, mais vous avez plaidé ici devant des convaincus. Nous sommes tous des acteurs de la psychiatrie et effectivement, ce qui semble tout à fait important, c'est que petit à petit, nous arrivions à diffuser ces éléments, ces informations auprès des acteurs des autres disciplines. Et il me semble vraiment qu'à l'heure de la stratégie de transformation du système de santé actuel, eh bien, c'est vraiment le moment où il faut que nous prenions nos bâtons de pèlerin. Parce que les CMP soit intégrés ou associés le plus possible à des maisons de santé pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, ça va dans le sens des maisons des adolescents et de l'éviter la mise à l'écart. Le fait de faire en sorte qu'il y ait des contacts avec les médias, les journalistes, est un point qui, là aussi, m'apparaît tout à fait important, d'aller vers une psychiatrie ouverte aux autres disciplines, ouverte vers justement la population générale, et donc de faire en sorte que les projets de communautés psychiatriques de territoire ne puissent s'envisager que dans des communautés professionnelles territoriales de santé avec les autres disciplines, que les projets territoriaux de santé mentale s'envisagent dans des projets territoriaux de santé, bref, que nous soyons ensemble pour aller vers les autres disciplines et que ce congrès international, c'est super, c'est très bien, mais effectivement, il faut qu'ils ouvrent aux autres disciplines, gynéco-obstétrique, médecine générale, les acteurs du soin, les partenaires, et que pour ce faire, nous soyons ensemble au niveau des aspects vers le grand public, vers les médias, Pierre-Michel Lorca, Marion Le Boyer, hier à la tête au carré sur France Inter, tous ces points paraissent tout à fait importants, et que nous soyons également ensemble vis-à-vis des pouvoirs publics pour qu'une vraie volonté politique puisse émerger. Et comme Pierre-Michel, comme Marion Le Boyer, il me semble le moment d'insister pour un véritable Institut national de la psychiatrie, comme il y a eu un Institut national du cancer.
Merci. Je propose que sur cette phrase débordant d'enthousiasme, peut-être qu'alors qu'il y a une dernière question rapide alors. Hein.
Oui, c'est un témoignage. Je suis actuellement directrice d'hôpital, vice-présidente de l'ADESP, mais dans une autre vie, j'étais sage-femme. Et dans mon expérience, dans les années 2000, à la maternité où j'exerçais niveau 3, il y avait un service de pédopsychiatrie et le rapprochement était important, nous a amené effectivement à mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque une unité de parentologie. On a formé les sages-femmes à l'entretien du quatrième mois, et nous avons modélisé tout le parcours avec les bonnes pratiques. Et on a créé un binôme sage-femme psychologue, supervisé par un pédopsychiatre. Toutes les patientes avaient droit à cet entretien. S'il y a, on avait fait les clignotants qui amenaient vers la parentologie, et aussi on a travaillé, parce que comme vous l'avez souligné à l'époque, les maternités se sont organisées en niveau 1, 2, 3, donc il fallait s'inscrire dans une maternité. Il a fallu travailler en réseau avec la médecine de ville et créer un dossier commun. Donc ces expériences existent. Je me demande, et c'était formidable parce que ça associait la pédopsychiatrie à la maternité, au réseau, tout ce que vous dites maintenant, ça a été modélisé. Le problème, pourquoi ces expériences ne se propagent pas, je pense que ce qui manquait, c'est l'évaluation.
D'accord.
C'est les moyens. Merci. De la coordination. Et je pense que c'est important de tenir compte et donner les moyens pour mettre en place des recherches qui donnent la preuve que ces modèles sont importants.
Merci, merci beaucoup pour cette expérience personnelle qui montre bien que c'est souvent des initiatives personnelles, locales, qui peuvent beaucoup changer les choses, mais là aussi que clairement une organisation nationale continue à être nécessaire. Et comme l'a dit tout à l'heure, comme on l'a présenté tout à l'heure, vraiment des initiatives qui doivent être au niveau national.